Nous sommes toujours avec notre invitée Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat Force Ouvrière, vice-procureur de la République au tribunal de grande instance de Paris, ancien juge antiterroriste, pour prendre un peu de recul sur le projet d'action antiterroriste, le pacte présenté vendredi par Édouard Philippe. Alors, on évoquait tout à l'heure la création de cette cellule qui sera chargée de suivre à leur sortie de prison les détenus radicalisés ou terroristes. On a vu que ceux qui ont commis des attentats ne sont pas prêts de sortir de prison. Autre annonce qui a fait réagir notamment les syndicat de magistrats, la création d'un parquet national dédié à l'antiterrorisme. Pour commencer, pourquoi il existe déjà un parquet antiterroriste sous l'autorité du parquet de Paris, donc de François Molins? Est-ce que ce parquet a démérité?
Alors non, ce parquet n'a sans doute pas du tout démérité, bien au contraire, puisqu'en fait, ce contentieux, c'est-à-dire l'activité de la lutte antiterroriste, est devenue une activité à temps plein. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, a surgi cette idée de faire un parquet national antiterroriste, dit PNAT, pour simplifier, qui pourrait justement décharger le procureur de Paris, des autres activités pour faire, comme ça a été fait pour le parquet national financier, une activité, j'allais dire, à temps plein que sur le terrorisme.
Aujourd'hui, après l'affaire Cahuzac, oui,
le parquet. Exactement. Aujourd'hui, le parquet de Paris a évidemment d'autres contentieux dans sa pochette. Et donc, le terrorisme ayant pris une importance telle, on s'est posé la question de savoir s'il fallait pas justement avoir un parquet dédié.
Mais a priori, c'est pas idiot. On peut se dire que c'est donner plus de moyens, détacher une unité.
Mais... Non seulement c'est pas idiot, mais en plus, en tout cas en ce qui concerne notre syndicat, c'est une demande forte que nous avons puisque nous sommes totalement pour. Là où, après les discussions commencent, c'est une fois qu'on a dit qu'on crée un parquet national antiterroriste, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Quels sont ses contours? Quelles sont ses fonctions? Quels sont ses objectifs?
Alors, pardon, juste avant qu'on revienne là-dessus, pourquoi votre syndicat est-il pour? Vous venez de dire que le procureur de Paris n'avait pas démérité, qu'a priori, quand il a besoin de troupes supplémentaires, comme ça s'est passé lors des attentats, il fait appel à d'autres parquetiers, avec d'autres spécialités, par exemple spécialisés dans les accidents collectifs ou que sais-je, et que ça a plutôt fonctionné, en tout cas que personne, je crois, parmi les professionnels ne remette en cause aujourd'hui l'efficacité de ce dispositif.
Alors, notre syndicat est pour plusieurs raisons. D'abord parce que dans l'évolution qui a eu lieu depuis maintenant une quinzaine d'années de tous les services régaliens, seul la justice n'a pas évolué par rapport à la menace terroriste. Or, la menace terroriste elle-même a évolué, elle a changé, elle est devenue un contentieux de masse, elle est devenue beaucoup plus agile, et les profils même des personnes qui commettent des attentats ou qui veulent commettre des attentats ont également évolué, même si vous avez bien compris tout à l'heure que je suis très réservée sur l'idée de profilage. Mais la justice antiterroriste est un héritage des années 80. La première loi est de 1986 et l'idée forte qui a construit tout notre système de lutte antiterroriste était celui de la centralisation. À l'époque, la menace, contrairement à ce qui est maintenant dit partout, était davantage une menace exogène, c'est-à-dire projetée de l'extérieur. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que la menace est devenue endogène, c'est-à-dire elle vient de l'intérieur du pays, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas de lien avec l'extérieur. Car encore une fois, on ne peut pas penser la lutte antiterroriste sans penser la politique, la géopolitique,
réseau,
et la manière dont nous-mêmes on s'inscrit dans notre action et dans notre, dans nos opérations militaires à l'extérieur. Donc bien évidemment, tout ça est lié. Mais une fois qu'on a dit ça, là, si vous voulez, la menace a été, déplacé un peu de l'extérieur vers l'intérieur. Et d'ailleurs, on s'en est aperçu quand on a vu le nombre de personnes qui partaient de France pour aller rejoindre l'État islamique. On s'est aperçu que la France a été le premier pourvoyeur, avec la Belgique et la Tunisie, un des premiers pourvoyeurs de départ sur l'État islamique. Donc on s'est aperçu que c'était de France qu'on avait une sensibilité sur le discours de Daesh. Donc cette menace, elle est endogène maintenant. Et c'est vrai que nous avons un système hyper centralisé qui avait une capacité de riposte très intéressante, avec des magistrats spécialisés, en petit nombre d'ailleurs, qu'on a cessé d'augmenter, et qu'aujourd'hui, la menace, elle s'est redéplacée sur le territoire et que c'est à partir de cette nouvelle menace qu'il faut repenser les outils. Donc, le PNAT pouvait être intéressant pour reprendre possession du territoire. C'est l'idée de maillage territorial. Et la preuve en est, c'est que le renseignement, qui a eu exactement la même évolution, hypercentralisation, suppression des RG, se redéploie depuis 4-5 ans sur tout le territoire avec les services de renseignement territoriaux.
Donc vous semblez insister sur la nécessité d'avoir des services transversaux et une vision transversale de la chose. Or, la critique qui est adressée à ce prochain parquet national dédié à l'antiterrorisme, c'est par exemple qu'il sera coupé, et c'est pas le cas aujourd'hui, des magistrats qui traitent de la délinquance, par exemple.
Alors, exactement. C'est-à-dire qu'encore une fois, et c'est ce que je vous disais, on est pour le PNAT, mais pas n'importe quel PNAT. C'est-à-dire de quoi parle-t-on et qu'est-ce qu'on va mettre dedans. D'ailleurs, le premier projet du parquet national antiterroriste avait été recalé ou retoqué par le Conseil d'État qui disait « Mais finalement, je ne vois pas très bien la valeur ajoutée de votre projet, puisqu'en fait, votre projet consiste simplement à prendre l'existant à Paris, le déplacer à côté, mais garder cette hypercentralisation. Et est-ce que aujourd'hui la menace est importante, mais demain, peut-être qu'elle ne le sera plus. Quelle est la légitimité d'un parquet comme ça, détaché de tout, un petit peu en orbite ?» Nous, ce que nous réclamons et ce que nous voulons, c'est penser, j'allais dire, l'état des lieux de la nouvelle menace et définir à partir de là les contours du PNAT. Et l'état des lieux de la nouvelle menace, c'est une menace endogène. Tout le territoire peut être, j'allais dire, susceptible de malheureusement fournir, en tout cas, des terroristes, villes comme les campagnes. D'ailleurs, je vous indique immédiatement que dans le projet annoncé par le Premier ministre, il y a une mesure extrêmement intéressante, qui est assez révolutionnaire, dont on parle pas. C'est l'entrée progressive de la gendarmerie dans la cellule à latte. Ça, c'est quelque chose.
C'est quoi la cellule à latte ?
Alors, la cellule à latte, c'est cette cellule justement de renseignement, de pilotage de renseignement qui va être sous la férule de la Direction Générale du Renseignement Intérieur, la DGSI,
à qui on donne de plus en plus de rôles.
Et jusqu'à présent, et de place. L'idée c'était quand même que ça appartenait au territoire dit police, qui ne représente que 5%, c'est-à-dire les grandes villes, et que les territoires ruraux qui sont gérés par la gendarmerie, c'est-à-dire 95% du territoire, n'était pas intégré dans le premier cercle du renseignement. Donc la gendarmerie, progressivement, rentre dans ce maillage territorial. Ce qui veut bien dire qu'on est sur une menace endogène, et ça c'est extrêmement intéressant, même si c'est long à venir, et que les seuls qui n'ont pas modifié leur organisation judiciaire, c'est la justice. Donc le PNAT est une occasion peut-être aussi de redéployer sur tout le territoire une action judiciaire en prévention d'attentats terroristes. Là-dessus, c'est pas exactement ce qu'il y a dans le projet. Qu'est-ce qu'il y a dans le projet ? Il y a quatre points, en tout cas de ce qui nous est présenté. Quatre motifs. Le premier, c'est de dire, bon, il faut que la lutte antiterroriste, on prend acte, que c'est devenu un contentieux très important de masse, donc il faut un procureur à temps plein. Très bien, dont acte, on est d'accord. Deuxièmement, ils disent, oui, mais aujourd'hui, il faut que ça soit des magistrats spécialisés qui ne font que ça, qui aillent requérir en cour d'assises. Vous savez qu'on a eu des grands procès récemment en cour d'assises, hein, justement. Il faut qu'on ait des magistrats extrêmement spécialisés. Donc, ce parquet fournira des magistrats spécialisés. Pourquoi pas ? Dont acte, on est d'accord. Troisièmement, dans ce PNAT, on va élargir les qualifications aux crimes de guerre, délits de guerre, crimes contre l'humanité. Pourquoi pas ? C'est très intéressant. Dont acte. Quatrièmement, et c'est là où on va discuter, ce dispositif permettra d'assurer un véritable maillage avec les parquets territoriaux. Et là, on n'est plus d'accord, parce qu'en fait, le projet ne va pas jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire une forme de déconcentration sur le territoire qui pourrait être les juridictions régionales spécialisées qui sont sur les 8 points les plus gros du territoire, qui auraient des magistrats spécialisés qui jugeraient, qui feraient des enquêtes sur le territoire. Non, là, ce ne sont juste que des relais qui font remonter l'information au parquet, au nouveau PNAT. Donc on est très très loin du maillage territorial. Et pourquoi on est très très loin ? Parce qu'en fait, on pense la lutte antiterroriste avec, à notre avis, deux défauts, en silo. Un, d'un côté, les terroristes, de l'autre côté, la criminalité organisée. Or, aujourd'hui, on sait qu'on a des phénomènes d'hybridation et de porosité. Il faut absolument coupler la lutte antiterroriste avec la criminalité organisée. Ce n'est pas dans le projet. Deux, on pense pas la lutte antiterroriste sur le territoire, mais avec une carte. C'est une erreur. On parle de carte dans le projet, c'est-à-dire qu'on identifie des endroits qui pourraient plus ou moins être gangrénés par des phénomènes terroristes. Or, on sait aujourd'hui que les phénomènes terroristes sont agiles, bougent et anticipent nos propres structures.
Les renseignements, est-ce qu'ils ont encore les moyens d'avoir une connaissance fine des phénomènes sociaux ? Vous parliez tout à l'heure de la suppression des RG, alors ça c'était sous Nicolas Sarkozy. Alors pour compenser, on a développé des moyens de surveillance électronique, sauf qu'évidemment tout ça n'est pas très fin. Qu'est-ce que les renseignements peuvent encore améliorer dans leur manière de travailler ?
Le problème du renseignement, ça pose le problème du renseignement en France. On a évidemment encore du chemin à parcourir. La DGSE, d'ailleurs, fait du très bon renseignement. Nous avons des nouvelles technologies qui sont pas encore totalement exploitées, mais là, objectivement, on a fait des grands pas en avant aujourd'hui sur les nouvelles technologies, même si on peut encore faire des choses beaucoup plus intéressantes. Et rien ne remplacera le renseignement humain. C'est pour ça que le maillage territorial du renseignement me semble essentiel, et c'est pour ça aussi que les magistrats doivent être au plus proche du territoire pour connaître leur bassin de délinquance et travailler en toute fluidité avec les renseignements territoriaux.
Béatrice Brugère, ça n'a pas été très médiatisé, je crois même pas que ça a été repris où que ce soit, mais lors d'un colloque récemment, le préfet délégué aux coopérations de sécurité du ministère de l'Intérieur a déclaré que la législation sur la protection de la vie privée, c'était dans le cadre de ses politiques et notamment antiterroristes, que cette législation était trop lourde et que lui était favorable à une extension maximale de la surveillance grâce aux nouveaux outils technologiques. On peut pas ne pas dire un mot au moins de ce que ce pacte et tous les autres textes qui sont passés ou qui passeront depuis quelque temps ou dans les années à venir impactent des libertés publiques.
Eh bien, en fait, votre question est extrêmement intéressante parce que on revient, si vous voulez, au début de notre interview, à savoir que c'est bien d'utiliser la technologie. C'est bien de vouloir surveiller comme ça de façon, j'allais dire, précise éventuellement des personnes dangereuses. Sauf que tant qu'on n'aura pas déterminé quelle est la cible, on va, à mon avis, prendre le risque de faire de la surveillance de masse. Or, c'est la masse qui nous tue, puisque la problématique de la surveillance, c'est pas de collecter le maximum d'informations, c'est de l'analyser. Et c'est la problématique, par exemple, des fichiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des fichiers qui deviennent énormes, mais qu'ils sont plus opérationnels parce qu'ils sont tellement énormes. Je pense, par exemple, au fichier du FSPRT qui a 20 000 personnes dedans. C'est-à-dire que ça sert à rien de faire des surveillances de masse, sans parler des problèmes de liberté publique que cela peut poser, si on n'a pas ciblé de façon précise quels étaient les objectifs. C'est-à-dire que là, on bascule dans un autre monde, si vous voulez.
Alors que les professionnels disent qu'il y a un fichier qui pourrait peut-être suffire, c'est celui qui a été basé sur le modèle du fichier des délinquants sexuels et qui a été appliqué,
le FIGET.
Et est-ce que vous pensez que ça peut suffire, que c'est déjà une bonne base de travail et que les autres sont superflus?
Justement, c'est le fichier pour les terroristes aussi. Donc oui, alors le problème en France, c'est qu'on est les rois pour créer des fichiers, mais c'est comme pour les politiques publiques, ce qu'on disait tout à l'heure, on a du mal après à les utiliser de façon opérationnelle. C'est-à-dire que il faut ces fichiers de temps en temps les valider, les épurer, voir ce qu'il y a dedans pour qu'ils soient opérationnels.
Béatrice Brugère, des procès monstres sont à prévoir dans les années qui viennent pour juger le terrorisme, que ce soit le procès en appel de Mohamed Merah l'année prochaine, les procès des attentats du 13 novembre à l'horizon 2021. Comment ça se prépare? Est-ce qu'on sait faire ce type de procès?
Alors, réponse rapide sur une question extrêmement large. Est-ce qu'on sait faire? Oui, bien sûr, on sait faire, puisqu'on a quand même, j'allais dire, des magistrats spécialisés extrêmement bien formés. Je pense que s'il y a quelque chose sur lequel on devrait être meilleur, c'est que les terroristes, dans les grands procès, ont une stratégie judiciaire. Il faut aujourd'hui que les magistrats aient aussi une stratégie judiciaire.
Et en est conscience. Merci beaucoup Béatrice Brugère d'avoir été avec nous, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat Force Ouvrière et ancien juge antiterroriste. Merci beaucoup.